Le Monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, 14h30 dans la capitale américaine. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Eric Manelakiza avec vous sur VOA Afrique à la une de l'actualité en son jeudi 29 août 2019 au Soudan. Le Premier ministre Hamdok n'a pas encore arrêté son choix sur la composition du gouvernement post-Béchir. Gambie, funérailles à Banjul du premier président, Sir Dawada Jawara, disparu mardi à 95 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU maintient ses sanctions contre des contrevenants à l'accord de paix de 2015 au Mali. Offensive judiciaire au Royaume-Uni contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement pendant plus d'un mois. Et ne manque pas d'actualité économique et des sports, mais dans 10 minutes après le journal. Le Soudan, toujours dans l'attente de l'annonce de son premier gouvernement depuis la chute d'Omar el-Béchir, les discussions se poursuivent autour du choix des ministres qui devront gérer les multiples maux du pays durant sa transition vers un pouvoir civil. De Khartoum, la correspondance de Salah Mohamed El-Hassan.
L'inquiétude augmente à cause du retard de la composition du nouveau gouvernement attendu. Monsieur Hamdok, le nouveau premier ministre, n'a rien ajouté à sa déclaration d'avant-hier où il disait qu'il était en train d'examiner les listes proposées par les forces de la Déclaration de liberté et de changement en lumière des critères convenus. De leur part, les forces de la Déclaration de liberté et de changement n'ont rien déclaré officiellement. Mais elle est claire. Quand on regarde les listes proposées par les forces de liberté et de changement, que ces forces politiques n'ont pas respecté le texte de la déclaration constitutionnelle qui accorde un quota de d'au moins 40% aux femmes. À rappeler que le Soudan vit sans gouvernement depuis le 11 avril de cette année, jour de la chute du gouvernement des dictateurs Béchir. Khartoum, Salah Mohamed El-Hassan, Voix de l'Amérique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé à l'unanimité pour un an les sanctions qui peuvent être imposées aux individus contrevenant à l'accord de paix de 2015 au Mali. En juillet, le Conseil de sécurité avait ajouté 5 noms à sa liste de Maliens sanctionnés par des interdictions de voyage, dont un parlementaire local et un homme d'affaires. 3 Maliens ont été sanctionnés en décembre. Au Liberia, le parti du président George Weah a remporté le siège de député en jeu lors de l'élection législative partielle organisée mercredi dans un district de Moronvia. L'opposante Telia Ouré a reconnu sa défaite et félicité son rival Abou Bana Kamar. Les Gambiens ont rendu hommage à leur premier président, Sir Dawada Jawara, décédé mardi à l'âge de 95 ans. Les funérailles d'État ont eu lieu à l'Assemblée nationale à Banjul. Le point avec Irénée Herman Ongbo.
L'actuel président Adama Barrow a décrété une semaine de deuil national du 27 août au 2 septembre. Monsieur Barrow a rendu hommage à l'ancien président dans un discours avant son inhumation dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La dépouille a été portée par des officiers de l'armée en présence de nombreuses personnalités et des membres de sa famille. Plusieurs personnes se sont recueillies devant son cercueil recouvert du drapeau gambien. Sir Dawada Jawara a été le premier président de Gambie et décédé mardi dans sa résidence de Fajara, non loin de Banjul. Né en 1924 dans une famille mandingue musulmane à Baradjali, où son père était commerçant, ce vétérinaire formé au Ganapu en Écosse était entré en politique en 1960 en devenant le leader du Parti progressiste du peuple. Premier ministre en 1962, il négocie et proclame en 1965 l'indépendance de la Gambie. Il a refusé l'intégration à son puissant voisin le Sénégal en juillet 1994, il était renversé lors d'un putsch sans effusion de sang mené par Yahya Jammeh qui va rester au pouvoir jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow.
Au Sénégal, la mort de deux détenus dans la principale prison de Dakar suscite des critiques contre les autorités. À l'origine, des étincelles produites par un ventilateur dans une chambre, provoquant un mouvement de panique parmi les prisonniers. Les défenseurs de droits humains appellent à mettre fin à la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements pénitentiaires. Un évêque congolais a dénoncé un désastre écologique dans le sud-est de la République démocratique du Congo qui menace une essence de bois menacée d'extinction au cœur de la forêt des Miombo dans le haut Katanga à la frontière avec la Zambie. Cet arbre, également nommé bois rouge en RDC, est une variété de bois très dense prisée pour la construction et l'ébénisterie. Depuis 2016, Mgr Muteba dénonce des actes d'exploitation illégale commis par des Chinois dans la province du haut Katanga. Les femmes et les enfants se trouvant à bord du navire humanitaire Mare Jonio en Méditerranée seront autorisés à entrer en Italie. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, même si l'interdiction d'entrer dans les eaux italiennes reste en vigueur. Un autre navire humanitaire de l'ONG allemande Mission Lifeline a secouru une centaine de migrants cette semaine, mais s'est vu refuser l'entrée dans les eaux territoriales italiennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les opposants à un Brexit dur ont lancé ce jeudi une offensive judiciaire contre la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant plus d'un mois. Cette suspension a indigné une bonne partie des Britanniques et entraîné la démission de la chef des conservateurs écossais. Les précisions de Eki Abadou.
Ruth Davidson, favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, a évoqué le conflit qu'elle a ressenti sur le Brexit dans sa lettre de démission. Elle a exhorté Boris Johnson à trouver un terrain d'entente avec Bruxelles. La quadragénaire avait su redonner un nouveau souffle au Parti conservateur en Écosse qu'elle dirigeait depuis 2011. Près de 75 parlementaires sont attendus en urgence par la plus haute instance civile d'Écosse avant une audience sur le fond le 6 septembre. Un autre recours introduit par Raymond McCord, militant des droits de l'homme, sera examiné vendredi par la Haute Cour d'Irlande du Nord. La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement à partir de la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre, deux semaines avant le Brexit, a suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni. Monsieur Johnson a dit vouloir mettre ce temps à profit pour élaborer une nouvelle politique ambitieuse pour le pays. Mais l'opposition y voit une manœuvre pour empêcher les députés de bloquer un Brexit sans accord le 31 octobre prochain.
Aux États-Unis, 10 candidats à la Maison-Blanche ont été sélectionnés ce jeudi pour le prochain débat démocrate en septembre. Le favori centriste Joe Biden et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, portée par les sondages, s'affronteront pour la première fois directement. Les critères renforcés de sélection ont été fatidiques à plusieurs prétendants démocrates qui ont préféré jeter l'éponge plutôt que de poursuivre leur campagne privée de cette plateforme médiatique cruciale. Les États-Unis vont maintenir 8600 militaires en Afghanistan. Cette mesure interviendra après un accord actuellement négocié avec les talibans en échange de l'engagement des insurgés à ne plus permettre à Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes d'utiliser les territoires sous leur contrôle. Yacouba Ouédraogo.
On va réduire nos effectifs à 8600, a déclaré le président américain, ajoutant, je cite, « Nous allons toujours avoir une présence en Afghanistan ». Il a insisté sur le fait qu'une force résiduelle va permettre d'avoir des renseignements de haut niveau. Au cœur de l'accord négocié, un retrait plus ou moins important des Américains, avec un calendrier, en échange de l'engagement des insurgés, à faire en sorte que les territoires qu'ils contrôlent ne soient plus utilisés par Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes. L'année dernière, Washington a entamé des pourparlers directs avec les talibans, dont le 9e cycle est en cours à Doha, au Qatar. Environ 14 000 militaires américains sont déployés en Afghanistan. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001 pour traquer Al-Qaïda. Depuis, les forces américaines avaient atteint 98 000 soldats au plus fort des combats en 2011. L'ancien président Barack Obama a ramené leur nombre à 8400 avant que son successeur n'accepte d'envoyer des renforts en 2017. Donald Trump s'est engagé à tourner la page de cette guerre, jugée trop coûteuse en vies humaines et en argent.
La ministre française de la Défense, Florence Parly, a affirmé que l'Union européenne avait des réserves sur l'opération navale américaine d'escorte dans le détroit d'Ormuz et précisé que certains pays voulaient déployer des moyens européens dans la région pour assurer une présence dissuasive et les opérations de contre-terrorisme menées par Damas soutenues par son allié russe ne peuvent justifier la mise en danger de 3 millions de civils dans la région d'Idlib en Syrie, a souligné ce jeudi l'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, devant le Conseil de sécurité. Voilà pour l'actualité africaine et mondiale de ce soir. Nous passons aux nouvelles économiques en Afrique. C'est la Minute Éco de Nanit Talani.
En Guinée, la principale société minière BHP est sur le point de céder sa participation dans le gisement de minerais de fer Nimba. Trois grandes sociétés dont les noms ne sont pas dévoilés sont en compétition pour développer la moitié de Simandou, la plus grande réserve de fer du pays. Elles ont accepté les termes de l'accord et ont déjà payé 300 000 dollars pour l'accès aux données et auront 45 jours à compter du 19 août pour préparer leurs offres. La Banque nationale de commerce de Tanzanie est frappée d'une amende de 435 000 dollars pour n'avoir pas mis en place un centre de données. C'est la deuxième banque à être sanctionnée pour le même motif. Le secteur tanzanien des services financiers a été frappé par une flambée des créances qui ont freiné la croissance du crédit au secteur privé. La Banque centrale a ordonné aux institutions financières d'établir des centres de données au risque de s'exposer à de lourdes amendes. Pour terminer cette Minute Éco, MTN Nigeria a lancé un service de virement de fonds mobiles ciblant les personnes sans compte bancaire qui représentent plus de la moitié des 180 millions d'habitants. MTN Nigeria ambitionne de devenir une banque de services de paiement et veut étendre ses services de transfert d'argent et d'autres services financiers. Le Nigeria a annoncé l'année dernière qu'il permettrait aux entreprises de télécommunications de fournir des services à des millions de Nigérians sans compte bancaire.
Sans tarder, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On va d'abord au Mali où Mamoutou Touré est le nouveau président de la Fédération malienne de football.
Oui Eric, sur les 62 voix, Mamoutou Touré, communément appelé Bavieux, a récolté 32 contre 30 pour Salaha Babi. Le troisième candidat Alassane Souleymane n'a eu aucune voix. Élu pour 4 ans, Mamoutou Touré place son mandat sous le signe de la réconciliation des acteurs du football malien qui a souffert d'une crise pendant 5 ans.
Nous sommes tous des Maliens. Nous savons que la crise a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette ensemble pour donner une très bonne image du football malien. Nous voulons qu'au cours de ce mandat, qu'on amène les hommes à se comprendre sur l'essentiel. Le football est la chose qui est extraordinaire, qui unit les gens à un tel niveau de complicité qu'il faut très rapidement aller à une réconciliation.
Mamoutou Touré, nouveau président de la Fédération malienne de football au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Amaniang a été élu président de la FIBA Monde.
L'élection a eu lieu aujourd'hui à Beijing, en Chine, où commence demain la Coupe du Monde de basketball. Le Malien Aman Niang, président de FIBA Afrique, seul candidat en lice, est désormais président de la Fédération internationale de basketball pour les 4 prochaines années. Un honneur pour l'Afrique, selon le président de la Fédération malienne de basketball, que nous avons joint à Beijing, Aruna Maïga.
Bon, c'est d'abord, on dirait l'Afrique est honorée, il le fait sous la continuité. L'Afrique a commencé déjà à avoir 5 candidats à la Coupe du Monde.
Aruna Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, joint à Beijing en Chine.
Le Ghana et le Botswana vont parler d'eux aux 400 mètres des Jeux africains.
Les Black Stars se sont imposés au 4x100 mètres relais et le Botswana a remporté le 400 mètres. Depuis Rabat, Kader Traoré a suivi ses épreuves.
Le Ghana a créé la grosse sensation en s'imposant dans le relais 4x100 mètres grâce à un temps de 38 secondes 38. Les Black Stars du Ghana ont dominé la concurrence pour l'emporter devant des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Pour le capitaine de la team ghanéenne Chan Sanfo-Antui, qui n'est autre que le dernier relayeur, lui et ses coéquipiers étaient venus pour chercher l'or et ils l'ont obtenu.
Aujourd'hui, l'équipe était vraiment prête pour cette compétition et comme nous l'avions dit, nous étions venus pour la médaille d'or et nous l'avons eue.
Le Botswanais Scott Lengo a remporté le concours de 400 mètres avec un chrono de 45 secondes 47. Il a su conduire sa course pour franchir la ligne d'arrivée en première position.
C'est notre pain quotidien, c'est comme le football au Brésil. Je suis très heureux. C'est la première fois pour moi de prendre part à une compétition internationale majeure. Gagner cette médaille m'encourage donc à travailler davantage.
Le Burkina a remporté la médaille d'argent des 100 mètres est avec Marthe Kwala. En 13 secondes 20 centièmes, elle s'est classée deuxième derrière la Nigériane Amoussan Tobi et devant la Sud-Africaine Taylon Bild. Kader Traoré, à Rabat, pour VOA Afrique.
Et c'était l'espoir de Yacouba Ouédraogo. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila, qui est dans Le Monde aujourd'hui. Le moment d'aborder les dossiers du jour. Au Royaume-Uni, la suspension du Parlement suscite beaucoup de réactions. Pour les pro-Brexit, le Premier ministre Boris Johnson est dans sa prérogative constitutionnelle. Pour d'autres, comme le député travailliste Lloyd Russell Moyle, il s'agit pour lui de coup d'État antidémocratique d'un dictateur en carton. Pour analyse, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de l'Observatoire du Brexit, Aurélien Antoine.
Depuis que Theresa May a démissionné et que l'hypothèse Boris Johnson de commencer à devenir une certitude, plusieurs hard Brexiters, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab, avaient envisagé cette possibilité pour en terminer avec le Brexit. Très rapidement, mes collègues et moi-même qui s'intéressons à la question, nous nous sommes interrogés sur la validité constitutionnelle de cette possibilité et ses répercussions politiques. Donc quand c'est arrivé, finalement, on n'a pas été tellement surpris.
Est-ce que cette décision a été prise pour empêcher le Parlement de légiférer, à votre avis ?
Alors, l'empêcher totalement, non. En limiter sérieusement la capacité, oui. Et c'est en cela que la menace de Boris Johnson est, je le dis presque à contre-cœur, quand même bien pensée, puisque le Parlement va pouvoir réagir, mais de façon très organisée et de façon prompte, parce que sinon, il risque d'empêcher effectivement la délibération.
Alors, des milliers de personnes ont manifesté en scandant « Arrêtez le coup d'État » hier au Royaume-Uni. Est-ce pour vous un coup d'État ?
Alors, je suis juriste et notamment spécialiste de droit constitutionnel. Un coup d'État, c'est prendre le pouvoir de force en dehors de la légalité, par des militaires ou par d'autres autorités politiques, sans respecter aucune forme de procédure. Or, Boris Johnson respecte une procédure. La prorogation du Parlement est une prérogative constitutionnelle dont le monarque dispose sur la recommandation du Conseil privé, donc du Premier ministre. Donc, c'était possible. C'est la motivation qui pose problème, mais même sur ce point-là, comme l'a rappelé Boris Johnson, le Parlement aura l'occasion de le contrer tout début septembre et à partir du 14 octobre et de se prononcer sur l'issue des négociations avec le Conseil européen éventuel le 17 octobre. Donc il y a encore des fenêtres de tir. Le Parlement n'est pas complètement muselé, comme je vais vous le dire, on a limité sérieusement ses marges de manœuvre. Ensuite, ne l'oublions pas, durant l'hiver 2019 et le printemps 2019, le Parlement a beaucoup discuté, s'est beaucoup prononcé sur le Brexit, sur l'accord qui avait été conclu par Theresa May, sur les alternatives, et il n'a trouvé aucune sortie. Donc aujourd'hui, l'alternative est simple. Soit ils arrivent à s'organiser contre Boris Johnson rapidement et de se décider sur une solution positive, soit c'est Boris Johnson qui l'emportera. Mais il y a des recours juridictionnels, il y a encore des moyens parlementaires d'empêcher la victoire de Boris Johnson. Or, dans un coup d'État et dans une dictature, tout cela n'est évidemment pas possible.
Aurélien Antoine, professeur de droit public à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en France.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Washington, le commandement spatial américain sera officiellement lancé ce soir lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Cette initiative est censée renforcer les efforts américains dans l'espace, notamment en matière de renseignement, communication, navigation et alerte de missiles. La mission principale de ce nouveau commandement sera la dissuasion contre les menaces mondiales. Nathalie Barge a joint Jean-Vincent Brissé, expert en défense à l'IRIS.
Le commandement spatial tel qu'il va être fait aux États-Unis n'est pas quelque chose qui va être créé à partir de rien. c'est quelque chose qui va être créé en groupant au sein d'un commandement des choses qui existent déjà dans les différentes armées, hein, et qui va rationaliser tout ça. Ensuite, à partir du moment où les gens porteront plus l'uniforme d'une armée, mais l'uniforme du commandement spatial, il y aura de la recherche, de l'imagination, de la théorisation qui pourront conduire à d'autres choses.
On parle notamment de capacités spatiales adaptées au combat, de dissuasion nucléaire, etc. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Qu'est-ce qu'on a déjà au niveau spatial, au niveau militaire?
Alors, on va rien avoir de nouveau sur le plan militaire dans un premier temps. Ce qui est spatial pour les militaires, c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire à la fois faire des photos de ce qui se passe au sol, et puis analyser les signaux électroniques, analyser un certain nombre de choses, des histoires de température, des histoires de déplacement et autres. Ça, c'est la partie reconnaissance. Il y a une partie communication qui est un petit peu le pendant des communications satellitaires civiles. Il y a une partie air dans l'espace qui est en train de se développer pour abattre les satellites ennemis. Et il y a une partie navigation qui est représentée par le GPS, qui est un ensemble de satellites qui permettent, par différents moyens, d'avoir la position exacte de quelqu'un au sol, selon qu'on besoin des militaires en permanence.
Est-ce que l'on pourrait arriver à un certain point où on pratiquerait notamment des frappes chirurgicales à partir de l'espace? Est-ce que ça se fait déjà, ça?
Ça ne se fait pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a des frappes chirurgicales à l'intérieur de l'espace qui consistent à abattre d'autres satellites. Parce que quand on a pensé à abattre d'autres satellites, c'est le début des satellites dans les années 60. Tout ce qu'on savait faire, c'était une grosse explosion le plus près possible d'un autre satellite. Maintenant, les interceptions de satellites, comme ont fait les Chinois, mais comme ont fait les Américains et les Russes aussi, ça consiste à provoquer une collision matérielle entre des choses qui se trimballent à plusieurs milliers de kilomètres heure, qui font la taille d'une voiture au maximum.
Ce commandement spatial prévoit notamment d'assurer, dit-on, la liberté d'action dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réglementation?
Alors, il est théoriquement interdit d'avoir de l'armement dans l'espace par les traités internationaux. C'est quelque chose qui est violé. L'expérimentation chinoise de 2007 a ouvert la porte à maintenant une dérégulation et à un arrêt de cette espèce de statu quo qui existait. Donc maintenant, les satellites, il y aura des satellites qui, pour assurer la protection des satellites dont on a besoin, vont être des satellites capables d'intercepter et de casser et de tuer les satellites intercepteurs. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans l'espace avec exactement ce qui se passe dans les airs, sur terre et sur mer.
Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Un éboueur de New York, Nelson Molina, est un collectionneur hors du commun. Depuis plusieurs années, il récupère et conserve des objets uniques retrouvés parmi les ordures, des trésors au fond des poubelles. Vladimir Lensky a rencontré ce collectionneur très particulier, le récit avec Lionel Runanira Gahima.
La poubelle pour l'un est souvent un trésor pour l'autre. C'est une leçon de Nelson Molina. Cet ancien éboueur a découvert ces 34 dernières années plus que des pierres précieuses en fouillant les dépotoirs de New York.
This was high tech when we were kids.
Ça, c'était la technologie de pointe lorsque nous étions jeunes. C'est un 8-piste qui date des années 70-80. Lorsque je l'ai trouvé, l'appareil marchait encore. Je l'avais donc mis dans le garage et je jouais la musique de Frank Sinatra à fond la caisse pendant que je travaillais ou nettoyais.
Lorsque Nelson Molina a pris sa retraite, il est devenu collectionneur à temps plein.
J'ai ce sentiment, lorsque je ramasse un sac, je sais qu'il y a quelque chose dedans, une valeur ou quelque chose de fragile. Alors au lieu de jeter le sac dans la benne, je le prends avec délicatesse.
Lorsque Molina a décidé d'exposer sa collection de quelque 44 000 objets dans un garage géant des services d'assainissement de New York, une partie de la collection a même fini dans un musée tenu par Open House New York. Alicia Gruyon y est curatrice.
L'idée derrière cette exposition est de mettre en valeur les histoires de New York, la magie particulière de cette ville, ses quartiers, ses habitants et ses communautés. L'une des pièces les plus anciennes date de 1901. C'est un passeport d'immigrés allemands et cela en dit long sur les gens qui ont vécu ici.
Dans la collection, on retrouve aussi des portraits dont certains sont vieux de 100 ans.
Toutes ces photos que j'ai trouvées à des époques différentes, vous avez des photos des 1901, 1935, 1939, vous avez un journal de 1922, un autre de 1920. Je ne pouvais pas lire ce qui y est écrit.
Parmi toutes ces pièces rarissimes, une œuvre complète de Molière publiée à Paris en 1810 à un projecteur contenant encore des diapositives de Batman. Les jouets ont toujours eu une place spéciale pour le collectionneur.
J'avais deux frères et trois sœurs. Nous n'avions pas grand-chose pour Noël. Alors avant Noël, j'allais dehors dans un rayon de trois pâtés de maison. Je fouillais les poubelles pour ramasser tous les vieux jouets que les gens jetaient. Quand je revenais à la maison avec ce petit sac pour mes frères et sœurs, c'était comme si le Père Noël arrivait à la maison.
Les gens jettent trop de choses qui peuvent encore servir. Maggie Lee, responsable de gestion au département de l'assainissement de New York.
Il a une approche pour le moins d'ordures possible et je pense que tout New Yorkais, n'importe quel humain, devra en tirer leçon, reconsidérer ses habitudes en matière de déchets et réfléchir comment réduire tout ça.
La collection de Molina appartient à la ville de New York, mais elle enseigne une leçon universelle. Un trésor peut être caché dans ce que d'autres ont jeté à la poubelle.
À partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Autrefois épicentre du groupe État islamique, autoproclamé sur certaines parties de la Syrie et de l'Irak, Raqqa se remet lentement après sa libération. La crainte est persistante au sein des habitants qui pensent que les cellules dormantes de Daesh pourraient se réveiller et se venger contre ceux qui vivent maintenant en paix. À Raqqa, le reportage de Heather Murdock, le récit de Yacouba Ouedraogo.
L'eau du fleuve Euphrate coule dans ce lit des rivières urbaines, dans cette ville jadis occupée. Nous sommes à Raqqa, autrefois capitale de ce que les militants du groupe État islamique appelaient leur califat, une vaste étendue de terre partagée entre la Syrie et l'Irak. La ville se remet lentement d'une guerre brutale qui a permis d'expulser les extrémistes qui l'ont gouvernée pendant des années. Une reprise du quotidien jonchée par des attaques sporadiques de plus en plus récurrentes, perpétrées par des cellules dormantes de Daesh. Khalid Barkal, porte-parole du Parlement de Raqqa.
En tant qu'armée, elle est vaincue, mais il y a encore des cellules dormantes qui sont dangereuses pour les gens.
Les souvenirs de l'application stricte de la charia sont encore vifs. Abdullah, habitant de Raqqa.
Quand ils sont arrivés, ils ont dit « nous sommes des musulmans et nous les avons crus ». Mais ils ont arrêté une personne pour avoir volé et comme punition, ils lui ont coupé la main sur la place Naïm.
La place Naïm ou place du paradis a été surnommée « Hell Square », entendez place de l'enfer sous le régime des djihadistes parce que les têtes coupées des présumés espions ou criminels y étaient clouées sur une clôture et y restaient pendant des jours. Ce stade de football était autrefois une prison réputée et ce museau des jardins est encore jonché de mines. Le jardin est maintenant fermé, le stade est en cours de nettoyage et la clôture de la place Naïm a été refaite. Mais ces changements n'ont pas effacé les souvenirs des habitants de Raqqa ni apaiser leur crainte que les islamistes tenteront de revenir.
Désormais, je suis un robot.
Salut les amis, ici Roger Montou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la capitale des USA. Restez branchés ce jeudi dans RM Show à 20h temps universel. Au programme, hommage à DJ Arafat. DJ Arafat a fait tomber les frontières du coupé-décalé. On en parlera ce jeudi avec plusieurs invités de marque. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au +1 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au +1 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde d'aujourd'hui, c'est fini pour ce soir. La mise en onde assurée par Michel Joseph à la console, Dan Crafton, Eric Manirakiza à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous.